Jésus connaissait l'histoire de Naaman. Vous vous en rappelez de cela ? Jésus, quand il se présente à la synagogue de Nazareth pour faire la lecture, il dira ceci, « Je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le territoire de Sidon, c'est-à-dire à l'étranger. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » C'était les propos de Jésus dans la synagogue. En clair, ça signifie qu'il y avait des lépreux, il y avait des besoins en Israël, mais aucun prophète n'est bien reçu dans son propre pays, dans sa propre maison. Alors Dieu a agi à l'extérieur. C'est cela que cela veut dire. On a une des clés de l'interprétation, pourquoi Dieu s'est occupé d'un étranger, Naaman, parce qu'à l'intérieur d'Israël, la parole de Dieu n'était pas reçue. Je crois qu'il en a été de même dans l'histoire de l'Église. Quand l'Église s'est fermée, je lisais avec quelqu'un l'histoire des conciles. C'est très intéressant l'histoire des conciles, vous savez. Quand l'Église, depuis son origine, se rassemble pour combattre les fausses doctrines. Et vous n'avez que 4 conciles qui sont acceptés par les catholiques, les protestants, les anglicans. Pourquoi ? Parce que ce sont les 4 premiers conciles jusqu'à environ le 4e siècle qui parlent uniquement de, et j'ai entendu cela dans la prière d'Élisabeth, qui disent, voilà qui est Christ, il est Dieu et il est homme. Et les 4 premiers conciles vont être des conciles qui vont se centrer sur la foi en Jésus-Christ. L'Église était centrée sur Christ. C'était ta prière ce matin. Et dès qu'il y avait des mouvements qui venaient remettre en question, « Ah oui, mais il n'était pas tout à fait homme. Ah oui, mais il n'est pas tout à fait Dieu. Peut-être que ce n'est même pas lui qui est mort sur la croix. » Tout de suite, l'Église se mobilisait et disait, « Voilà ce que nous croyons. » Et c'est ce qui a créé les credos originels qui disent, « Voilà en quoi nous croyons. Je crois en Dieu le Père, etc. etc. » L'Église se rassemblait pour dire, « Voilà ce que nous croyons. » Et à partir du 5e concile, en fait, l'Église s'est réunie pour dire qui elle était, quel était son pouvoir, quels étaient ses moyens, quelles étaient son autorité, qui avait le droit de diriger l'Église et pas cela, parce que c'est moi qui suis à Rome, parce que toi tu es à Constantinople, etc. L'Église ne se centrait plus sur Christ, elle se centrait sur elle-même. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu a parlé en dehors de l'Église. Que des mouvements sont nés. Mais vous savez, les réformes, ce n'est pas simplement le XVIe siècle. Il y a eu des mouvements de réformes pendant tous les siècles où en dehors de l'Église qui ne s'occupait de son pouvoir, Dieu a parlé, Dieu a agi, Dieu a touché les cœurs. Gardons-nous d'être une Église centrée sur elle-même et non pas centrée sur Christ. Gardons-nous de passer notre temps à savoir qu'est-ce que nous devons être, quels moyens nous allons avoir, qu'est-ce que nous voulons faire pour nous, quelles sont les autorités. Ah, dans l'Église apostolique, on a passé tellement d'années. Au début du réveil de l'Église apostolique, on a découvert ce que c'était que les ministères. Et l'Église a grandi parce que des hommes se sont mis au service de Christ pour servir. Et puis au bout de 40-50 ans, on a passé tellement d'années à dire, est-ce que je suis prophète? Est-ce que tu me reconnais comme prophète? Est-ce que tu me reconnais comme pasteur? Est-ce que vous me reconnaissez comme ceci, comme tel ministère? Je l'entends encore tellement souvent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour servir, on est là pour être, pour avoir, pour posséder, y compris un ministère. Alors Dieu parle ailleurs. Moi je vois de merveilleux prophètes en dehors de l'Église apostolique, de merveilleux apôtres, de merveilleux pasteurs, de merveilleux docteurs, de merveilleux évangélistes. Et puis nous on cherche à savoir ce que c'est qu'un évangéliste encore aujourd'hui. Quand Dieu n'est plus présent au milieu de son peuple, n'est plus le centre de la préoccupation du peuple de Dieu, Eh bien, Dieu parle en dehors. Et c'est ce qui fait que Naaman, et ça a choqué. Les milieux rabbiniques ont eu du mal à expliquer ce texte. Comment Dieu, ce texte commence en disant « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur, mais il est dit aussi « C'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. » Mais c'est le monde à l'envers. Attends, les Syriens, c'est ceux qui attaquent Israël. On voit même qu'à un moment donné, ils sont allés faire une razzia, ils ont ramené une jeune fille. Ils ramenaient donc des populations en Syrie. Et l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Il s'est trompé. C'est une erreur. Dieu n'est pas un bon chef militaire. Il s'est trompé d'armée. C'était le camp d'en face. Ça me fait penser quand on joue au football et qu'on marque contre son camp. Hein ? Il a marqué contre son camp. Non, non, pas du tout. Dieu était avec Naaman et il avait accordé le salut aux Syriens parce qu'Israël était en dehors de la pensée de Dieu. C'est un avertissement grave. Quand Dieu déserte son camp et qu'il joue à côté, c'est pas lui qui joue à côté, c'est nous qui sommes sortis de l'équipe, les croyants, le peuple de Dieu. Alors dans ce texte, les personnages de son récit, on pourrait dire que c'est d'abord Élisée et Naaman. J'ai envie de dire que Naaman est certainement au centre de ce récit, avec toute une démarche qui s'apparente au chemin que nous avons à faire nous aussi, quand nous sommes appelés, interpellés par Dieu. Naaman est quelqu'un d'important, le chef de l'armée de Syrie, celui qui était considéré, il est même dit qu'il était un héros. Mais cet homme était lépreux. C'est-à-dire qu'il était atteint de la pathologie certainement la plus mal perçue dans les temps anciens. La lèpre, si vous avez le désir de savoir à la fois ce que c'est et comment des hommes ont travaillé avec... En tant que missionnaire, je vous conseille ce livre fabuleux. C'est « Tes œuvres sont admirables ». C'est un Philippe Michael Brandt, je crois. C'est un vieux livre qui date d'une trentaine d'années. Et c'est un médecin qui a été missionnaire en Inde et qui s'est particulièrement attaché aux soins des lépreux. Et c'est en lisant ce livre, qui n'est pas du tout un livre sur la lèpre et la mission, en fait. C'est un livre où il parle du corps, comme il est médecin. Et il parle du corps et il fait des analogies entre tout ce qui est dans notre corps, par exemple un squelette. Vous savez que nous avons un squelette, enfin j'espère pour vous, un squelette qui est interne, contrairement à l'araignée de mer. On appelle ça aussi le bacille de Hansen. Et ce bacille, c'est simplement un écrivain acclamé par la foule, etc. Et tout le monde l'acclamait. Hourra, le héros de la Syrie! Et Naaman sur son char qui se disait, que j'aime être le plus humble des servitiers, un simple boulanger, quelqu'un qui ne porterait pas cette marque. Et l'auteur disait, lorsqu'il se regardait dans la glace, là où les autres voyaient un héros, un homme magnifique, superbe, lui ne voyait qu'un malade et ne voyait que cette tache. Et je me dis que lorsque les autres nous regardent, ils nous voient, souvent avec nos qualités, ce que nous laissons avoir, apparaître, mais nous sommes seuls à connaître la marque du péché dans nos vies, à savoir ce qui peut être en nous, à guérir par l'action de Dieu. C'est Jacques, au chapitre 1, 23, qui dit que la parole de Dieu est comme un miroir qui nous renvoie ce que nous sommes. Et certainement que quand on entend parler de Naaman, on se dit, mais moi aussi, j'ai été porteur de la marque du péché. Ou peut-être qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint me montre des choses qui sont là, qui sont du péché dans ma vie, qui ont besoin d'être transformées. La parole de Dieu me renvoie cela. Alors qu'est-ce que je fais? Et on peut lire le parcours de Naaman comme notre propre parcours. Dans ce texte que j'utilise souvent en méditation avec les patientes de Cœur du Dos, là où je travaille, je dis souvent que ce texte pourrait avoir pour titre « Comment faire simple quand on peut faire compliqué ?» Alors ça les intrigue toujours quand je leur dis ce titre-là. Et je dis que c'est vrai que Naaman, il a cette position-là de vouloir quelque chose de plus compliqué que de se plonger cette fois dans le Jourdain. Mais on pourrait aussi donner à ce titre à ce passage, c'est « Comment découvrir la grâce de Dieu ?» Une grâce qui ne s'attache pas à mes mérites, à ce que je suis, à ce que je peux donner, mais simplement à la nature même de Dieu qui vient vers moi et me dit « Tout est grâce et ce que je vais te donner, ce que je vais accomplir dans ta vie, c'est l'action du Dieu de grâce. » Du Dieu de grâce. Et moi je dis, oui, mais c'est un peu trop simple, Seigneur. Il me faudrait quelque chose de plus compliqué, de bons examens, avec 10 heures de relation d'aide avec le pasteur, ou avec son épouse, ou avec un frère de l'assemblée. Quelque chose de sérieux et de solide. Quand même. Lorsque Dieu s'est adressé à Naaman, il l'a fait de manière à démontrer cette grâce qui est en lui. On est peut-être dans une période de trêve entre l'Israël et la Syrie, mais toujours avec des périodes de tension, et on voit bien la réaction de Yoram, le roi d'Israël, qui dit, mais il cherche une excuse pour m'attaquer. Donc c'est toujours la tension. Et puis, intervient un personnage presque secondaire. Une petite fille qui a été enlevée lors d'une razzia. Et dans le texte de l'histoire de Naaman, on doit observer les paroles qui sont portées par les personnages dits secondaires. Et ces personnages secondaires, ce sont la petite fille servante de la femme de Naaman, Géasi, qui a un rôle très particulier dans ce récit, et qui va être, lui, porteur du refus de la grâce, c'est-à-dire qu'il considérera qu'il est normal de payer ce que Dieu donne, et il en portera le prix. Et puis les serviteurs de Naaman, tous ont un rôle en termes de porteurs de paroles et de messages. La petite fille vient et dit à sa maîtresse, voilà, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie. Elle ne connaît pas le nom, elle ne donne pas le nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est pour ça que Naaman va à Samarie et va en direction du roi avec sa lettre. Il ne sait pas quel est le nom du prophète, où il est. Mais il cherche. Il cherche. Parce que c'est indispensable pour lui. Tout à coup, son statut, ce qu'il est, ce qu'il a, devient secondaire. Ce qui est au centre de sa préoccupation, c'est comment je peux être guéri. Et c'est là aussi, même s'il y a dans l'attitude de Naaman, dans sa personnalité, quelque chose qui relève, c'est ce que disent les rabbins. Les rabbins voient Naaman comme le modèle de l'orgueil. C'est pas faux. Mais tout en étant orgueilleux, on peut savoir ce dont on a besoin. Moi, j'ai beau être orgueilleux à certains moments de ma vie, mais quand j'ai des besoins, je dis, c'est ceux-là qui deviennent. Après, si on me demande de plier le genou, ça devient plus compliqué. C'est ce qui se passe avec Naaman. Et en fait, Dieu va utiliser une servante. Ah, peut-être que Naaman aurait aimé qu'un grand médecin de la cour lui dise, tu sais, il faudrait que tu fasses ceci, que tu fasses... Non, c'est une parole qui vient d'en bas, d'une petite fille. Et quand je lis ce texte-là, je me dis, dans notre vie, quels sont les anges? Comme pour Élie, vous savez, sous son genêt, Dieu envoya un ange. Il envoya quelqu'un. Il y eut un envoyé de Dieu. Quels sont les envoyés de Dieu qui ont été mis à nos côtés pour nous dire simplement la parole dont nous avions besoin pour prendre la bonne direction dans notre vie. Et comment parfois on peut négliger cette parole parce que ça vient d'une petite servante, quasi esclave. Est-ce que moi, Jean-Marc Pointeau, pasteur d'une église, je peux prendre au sérieux une parole qui ne viendrait pas d'un autre pasteur? J'ai eu quelque chose qui m'a choqué. Je n'ai pas trop donné trop de détails, mais il y avait un rassemblement de pasteurs il n'y a pas longtemps. Et puis, les gens se demandaient comment on allait prier, faire prier les gens ensemble, etc. Et puis, il y a eu une réflexion d'un pasteur qui dit, et nous, alors, nous, les pasteurs qui seront devant, est-ce qu'on va prier avec le peuple? J'ai entendu ça, je dis, pardon, qu'est-ce que j'ai entendu? Ben oui, nous, les pasteurs, on reste entre nous ou est-ce qu'on va prier avec le peuple? Je me suis dit, tiens, il y a une hiérarchie que je n'avais pas vue. C'est maintenant, c'est au milieu de nous. C'est-à-dire que quelque part, il y a le peuple et il y a ceux qui sont. Moi, j'ai de la chance, je suis avec ceux qui sont. Hein? Mais ça démontre comment l'orgueil peut nous empêcher de vivre, de partager notre foi et de recevoir les uns avec les autres ce que Dieu a déposé et a envie de donner. Là, c'est une petite fille qui élève la voix. Elle donne qu'un minimum d'informations, mais elle donne une direction. Combien nous pouvons passer à côté de ce que Dieu nous dit parce que nous négligeons d'être attentifs à la parole de mon frère, de ma sœur. Tout ne passe pas par le pasteur ou l'ancien. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait aucune beauté, aucun éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. C'est ce qu'Ésaïe dira au chapitre 52 en parlant du Messie, en annonçant ce que le Messie... Est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Là aussi, dans la prière d'Élisabeth, j'écoutais, c'est Dieu qui marchait au milieu des hommes quand Christ était là. Il était homme, c'est vrai, mais il était Dieu. Vous imaginez Dieu marchant au milieu des hommes? Alors, on a fait un superbe temps d'échange avec Hervé sur le credo expliqué par Karl Barth sur cette notion de Dieu marchant au milieu des hommes. On en ressort émerveillé. Enfin, on était là, on lisait ses commentaires. Enfin, c'est fabuleux, c'est vrai que c'est fabuleux. Imaginez Dieu marchant au milieu des hommes. Il n'avait pas d'éclat, un peu comme cette servante. Est-ce que nous négligerons ce que Dieu veut nous dire parce que la source n'est pas celle qui proclame avec autorité, avec gloire, etc. Ce matin, Dieu a utilisé la voix de Christiane pour nous dire quelque chose. Est-ce que c'est parce que c'est Christiane qu'on négligera ou est-ce qu'on la prendra comme une parole qui vient de Dieu parce qu'on en a besoin? Le roi de Syrie dira à son chef des armées, vas-y, va voir et je te fais un mot. On se croirait à l'école. Vas-y, mais ce n'est pas n'importe qui va faire le roi. C'est-à-dire qu'il va demander au roi d'Israël qu'il combat, la plupart du temps, de guérir son chef des armées. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est comme si Charles de Gaulle, tombant malade à Londres, recevait de la part de Churchill un mot pour aller demander à Hitler d'aller voir un de ses médecins. C'est ça. Et le roi de Syrie dit, oui, pourquoi pas. Et il va l'envoyer à Samarie. Et à Samarie, Naaman manifeste ce qu'il est quand même. C'est-à-dire quelqu'un qui pense que tout s'achète. Tout se paye. Il ne connaît pas encore le Dieu de grâce. Il sait que c'est un Dieu qui peut le guérir et il se met en route comme se mettra en route la femme victime d'une perte de sang et qui dira « si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri ». Naaman est dans cette même position de foi. Et en cela, on peut dire, même si c'est dans son orgueil, dans ce qu'il est et ce qu'il a construit, il y va quand même. Mais il y va quand même avec 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Alors on dit 10 vêtements de rechange ou de fête. C'est-à-dire des choses à donner. Si vous lisez dans le premier livre des rois, comment Akab a acheté le terrain pour construire Samarie, vous saurez que Naaman va venir vers le roi d'Israël à Samarie avec 5 fois plus d'argent, pas de l'or, mais 5 fois plus d'argent que ce qu'Akab a payé pour acheter le terrain et construire la ville. Ça vous donne une idée de la valeur avec laquelle il vient. C'est-à-dire qu'il va voir le roi en disant, ben voilà, j'ai amené avec moi aussi de quoi payer, c'est-à-dire 5 fois plus que ça t'a coûté pour acheter le terrain. Il y avait 2 talents d'argent pour Akab, pour le terrain. Lui, il vient avec 10 talents d'argent. 10 talents d'argent. Oui, parce que pour lui, ce que Akab a payé dans 1 roi 16-24, ce n'est rien par rapport à ce que lui est prêt à donner. Alors il porte l'aide du roi d'Israël, et le roi d'Israël complètement perdu, complètement en dehors, parce que c'est un homme qui ne se rappelle plus qui est Dieu. Étonnant quand même. Le roi d'Israël qui a oublié qui est Dieu et ce qu'il peut accomplir. Quand je regarde l'histoire de l'Église, je me dis, nous avons vécu les mêmes choses au travers de l'histoire. Une Église qui a oublié ce que Dieu était capable de faire. Et quand des hommes ont été source de réveil, y compris dans l'Église catholique, je pense à François d'Assise, qui a découvert ce que c'était que de vivre dépendant de Dieu, de retrouver une autre idée de Dieu au milieu d'une église qui baptisait le Vatican, la chapelle Sixtine, etc. Comment lui a retrouvé ce que c'était que la relation intime avec Dieu, mais d'autres aussi. L'église avait oublié aussi ce qu'était Dieu. Le roi d'Israël ne se rappelle même pas qu'il y a un prophète dans la même ville que lui, à Samarie. Il ne se rappelle pas. Sachez donc, il cherche une occasion de dispute. Élisée va entendre parler ça et dire, mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pourquoi t'affliges-tu? Moi, envoie-le-moi et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. Sous-entendu, il reconnaîtra que Dieu règne là, est présent. Et j'ai envie de dire, c'est aussi notre témoignage. Nous sommes aussi prophètes. Et nous avons pour mission de dire à ceux qui nous entourent, y compris dans l'Église, vous reconnaîtrez que Dieu est vivant. Notre rôle, c'est cela en tant que croyant, d'être dans cette position de foi, cette attitude de proclamation. Il y en a qui vont partir en Malaisie cet après-midi. Éric et Liane, vous partez afin d'être des témoins pour que ceux qui vous entourent reconnaissent. Et ceux qui restent ici, à Douélan, à Quévin, à Concarneau, à Lorient, même à Cloire-Carnoët, Dieu attend de vous que vous soyez des prophètes qui puissiez annoncer et faire reconnaître. Le mot reconnaître est important. Envoie-le-moi pour qu'ils reconnaissent et que tous reconnaissent que l'Éternel est vivant. La plus longue partie du récit montre Naaman lorsqu'il va à la rencontre du prophète. Et Naaman vint, le verset a l'air innocent comme ça au verset 9, vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il s'arrêta pourquoi ? À la porte de la maison, pas parce qu'il était lépreux. Et que même si les règles en Syrie et en Israël étaient différentes, le lépreux était en quand même considéré, puisque là c'était latent, c'était annoncé, le lépreux ne pouvait pas rentrer dans la maison d'un autre. On ne savait pas, jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne savait pas comment se faisait la contamination. En fait, on sait aujourd'hui, depuis les recherches médicales, que la lèpre n'est pas quelque chose qui se transmet de l'homme à l'homme de manière simple. Ce n'est pas en serrant la main, se faisant la bise, etc. Il faut qu'il y ait un contact prolongé. Et ce sont souvent par la salive, des choses comme ça, que les choses peuvent se transmettre. Mais c'est très difficile, on ne sait pas véritablement aujourd'hui encore comment se transmet la lèpre. On pense à l'insalubrité, on pense à des règles d'hygiène, des choses comme ça. Mais la transmission d'homme à homme n'est pas encore quelque chose de très courant. Ceci dit, la règle, c'est qu'on ne rentre pas chez quelqu'un quand on est lépreux. De la même manière que lorsqu'on se sent porteur du péché dans notre vie, lorsqu'on n'est pas en accord avec la pensée de Dieu, on a du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Je pense que vous l'avez vécu. Quand Dieu nous a parlé, nous a mis le doigt sur des choses dans notre vie qui doivent changer, qui doivent être transformées, lorsqu'il faut se convertir dans certains domaines de notre vie, eh bien, tant qu'on ne l'a pas fait, c'est dur de regarder l'autre en face. J'ai une patiente qui m'a dit, qui s'était alcoolisée, qui m'a dit, vous savez, ça a été dur pour moi de rentrer. Alors je dis, ah bon, pourquoi ? Ben parce que je savais que je m'étais mis en porte-à-faux avec les règles du soin, de ne pas consommer d'alcool, et parce que j'avais honte sous le regard des autres, parce qu'elle ne le savait pas, elle ne le voyait pas, mais moi je le savais. C'est fort. Le regard des autres me augmentait mon sentiment de culpabilité. Le péché, il en va du même. Alors, Naaman est resté dehors. Mais n'empêche que s'il est resté dehors, il s'attendait à ce que l'autre sorte, que le prophète sorte. Je croyais que... Et ça, c'est aussi un frein à la bénédiction de Dieu. C'est ce que nous croyons. C'est-à-dire, comment Dieu va faire et va agir. Nous imaginons tellement comment Dieu va s'y prendre qu'à la rigueur, on va le conseiller. On va dire, tu sais, Seigneur, ça serait bien, tu vas agir. Moi, j'entends souvent dans les réunions qu'on peut avoir, comment on explique à Dieu dans l'intercession comment Dieu va s'y prendre. Tu sais, Seigneur, il faut que tu interviennes, que tu poses ta main sur ceci, sur cela, que tu... Et on le conseille bien, on lui donne l'itinéraire à suivre. Puis Dieu agit souverainement. Là, Naaman était là, devant la porte, et quand il voit que Élisée n'envoie que son serviteur, alors il est en colère parce que ça ne se passe pas comme lui le voudrait. Il voulait être guéri. Il avait entrepris un voyage de plus de 300 kilomètres. Et il avait fini par trouver le prophète. Mais il pensait que sa participation à lui s'arrêterait là. Il pensait que Élisée allait faire tout le restant du boulot. Et puis que lui n'aurait plus qu'à se laisser faire. Eh bien, pour sa guérison, il doit participer activement. Il doit devenir acteur. Il doit encore continuer son voyage et se rendre au Jourdain. Et là encore, c'est à lui d'agir. Ah ouais, parce qu'on pense que finalement, quand on demande à Dieu, Dieu agit, puis nous, on n'a plus rien à faire. Non. Notre foi doit être active. Et il y a une formule que j'aime bien, c'est la foi et l'action se fécondent mutuellement. La foi et l'action se fécondent mutuellement. On peut dire qu'ici, la foi en Dieu, ça ne peut pas être un oreiller de paresse. On se dit, ah parce que je crois en Dieu, il va tout faire. Non, non, tu vas aller jusqu'au Jourdain. Et puis vous savez combien il était de Samarie, le Jourdain? 50 kilomètres. Ce n'était pas à la sortie de la ville. Souvent, on a cette image-là. Il faut aller dans les détails aussi pour se rendre compte que... Et en plus, il est pervers, Élisée, quand même. Vous savez quoi? En plus, le type a fait 300 km, il arrive à Samarie, il l'envoie vers le Jourdain, mais le Jourdain est situé sur le chemin du retour de Naaman. C'est-à-dire qu'il l'envoie à 50 km en disant, comme ça, il ne reviendra pas me voir. C'est ça, là, le but. C'est-à-dire, une fois que tu seras guéri, tu repars. Une manière de dire pour Élisée, d'accentuer l'idée, ce que tu vas vivre, c'est la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de revenir. Tu n'as pas besoin de venir me remercier, tu n'as pas besoin de me donner tes cadeaux, etc. Va te baigner, sois actif, sois acteur de ta guérison et rentre chez toi. relisez ce passage sur la guérison de Naaman et interpellez-vous, comme moi, sur la manière dont parfois nous attendons tout de Dieu et nous ne faisons pas en sorte que la foi et l'action se fécondent mutuellement. C'est parce que je me mets en route, parce que je suis acteur, parce que je me lève, que Dieu agit. Que Dieu agit. Souvent, on entend, je voudrais que vous priez pour moi pour que Dieu fasse. Et toi, tu vas faire quoi dans ce que Dieu veut faire pour toi? Est-ce que tu es capable de faire les 50 km pour aller simplement te baigner dans le Jourdain? Et finalement, la colère de Naaman va le mettre en route, je dirais, en négligeant ce que Dieu veut pour lui. Et là encore, qui est-ce qui intervient? Des serviteurs. Là aussi, est-ce que nous pouvons aussi être des serviteurs les uns des autres, pour que ceux qui n'ont pas compris ce que Dieu veut pour eux, on puisse être une simple parole, comme il y en a une ce matin qui a été donnée, être une parole, porteur d'une parole, qui permet à l'autre de revenir dans le plan de Dieu pour sa vie. Là, les serviteurs vont le faire. Est-ce qu'on t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait? Bah évidemment, évidemment. Si on m'avait, je suis venu avec d'ailleurs, hein, j'ai quand même, je me trimballe avec 200 kilos d'argent, 60 pièces d'or, etc., etc. J'ai de quoi? Non, si on m'avait demandé quelque chose de compliqué. Si on te demande de croire uniquement que Christ est mort sur la croix pour toi, est-ce que tu crois que ça peut changer ta vie? Si tu crois qu'à la croix, il a pris tous tes péchés, et que même si tu es chrétien, ce qui est encore du lien dans ta vie, de la déprime, du découragement, de la crainte, de la peur, est-ce que tu crois que cela, simplement en croyant en Jésus-Christ, tu peux en être délivré et guéri? Voilà le message que délivrent les serviteurs à Élisée. Je vais m'arrêter là, mais relisez, continuez la lecture. Voyez comment Géasi, qui est le serviteur d'Élisée, a pris la position inverse et a décidé de faire payer Naaman. Le résultat, c'est que lui devient le symbole de ceux qui renient la grâce de Dieu et ils sont porteurs de la condamnation et de la lèpre. Et il y a juste une petite image que j'ai beaucoup aimée dans ce texte, que j'aime beaucoup, c'est Naaman revient et accepte de ne rien donner, d'accepte la grâce de Dieu. Il dit, mais voilà, je vais rentrer chez moi, je dois entrer dans le temple avec mon roi, etc. Et que dit Élisée? Va en paix. Je peux vous dire que les rabbins qui étudient ce texte-là sont en colère là-dessus. Comment on peut dire va en paix plutôt que dire à Naaman, sépare-toi de ton roi, sors, ne reste pas dans le péché, etc. Non, non, va en paix, vis ta foi là où tu es, en faisant en sorte d'être, voilà, le plus témoin possible. Mais vis ta foi, va en paix. Et Naaman fait une demande assez étrange, il dit, j'ai un âne là, permet qu'on remplisse des sacs de terre pour que je les emmène avec moi, afin que là où je suis, cette terre-là me serve à me rappeler que c'est la terre d'Israël où règne Dieu, etc. Sur quelle terre est-ce que je suis? L'important, ce n'est pas d'être en Malaisie ou à tel endroit. Hein. C'est que la terre où je me trouve, c'est là où se trouve ma vie, ce soit sur le pays de la promesse. Alors, on n'est plus sur la terre d'Israël, mais sur le pays de la promesse de Christ. Où est-ce que je suis? Où se tient ma vie? Où que je sois, dans quel milieu que ce soit, est-ce que je me tiens sur la terre de la promesse de Dieu? C'est là véritablement l'attente de Dieu. Seigneur, nous voulons, à l'instar de Naaman, pouvoir vivre ces guérisons dont nous avons besoin. Nous voulons vivre cette relation avec toi et faire que toutes les taches de péché qui peuvent être encore présentes dans nos vies puissent disparaître, parce que ton œuvre, ta volonté, c'est de transformer nos vies de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que nous te ressemblions, que nous acceptions cette œuvre de transformation. Donne-nous d'entendre les petites voix qui sont là pour nous dire ta parole, pour nous donner la direction, Donne-nous de pouvoir nous tenir sur la terre des promesses qui sont en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Que nous ne nous tenions pas au milieu du monde ailleurs que sur cette terre des promesses qui sont certaines en Jésus-Christ. Amen.